Voyage à Brest en 94. Aspect du pays. Causerie en voiture. 5 années seulement s'étaient écoulées, 5 années qui avaient suffi pour retourner la société comme un champ défriché. Et je parcourais cette même route que j'avais faite en 89 pour me rendre à Brest, où m'appelait d'impérieux devoir. À cette époque, les voyageurs étaient peu nombreux. Chacun restait chez soi, évitant de faire de la poussière et du bruit, car il ne fallait pas qu'on vous entendît vivre, si vous vouliez vivre en sûreté. Je partis donc seul, dans une espèce de char à banc couvert, qui faisait le service de Morlaix à Brest. Le commencement du voyage fut silencieux. Le postillon, qu'à sa carmagnole et à son bonnet rouge, il était facile de reconnaître pour un excellent citoyen, avait entonné la Marseillaise, et il fouettait ses deux rosses, Pitt et Cobourg, en jurant contre les ornières et traitant d'aristocrates les chemins qui, défoncés par l'artillerie, étaient réellement détestables. Mais au bout d'une heure, il parut las de chanter et de jurer. Il se tourna sur son siège et se pencha vers moi pour lier conversation. « Il y a longtemps que tu n'es pas allé à Brest, citoyen, me dit-il. 5 ans. 5 ans ? Oh, bien alors, c'était du temps du régime. Tu trouveras que la poêle à frire a un peu fait tourner l'omelette depuis. Ah, les ci-devant ne sont pas fiers, là. Il y en a 800 au château. Et les exécutions sont-elles nombreuses ? Mais non, ça ne donne pas absolument. Prieur-la-Marne est un bon sans-culotte, mais un peu cagne. Ça n'a pas faim d'aristocrate. Parlez-moi de Lenlo, c'est celui-là, un lapin. Du pain et du fer qui dit « Voilà tout ce qu'il faut de vrais républicains ». J'étais au club quand il est arrivé pour la première fois. Il vous a dégainé son sabre, l'a mis sur la table devant lui, en guise de plume, et a dit « Citoyen, j'arrive de Rochefort, où j'ai mis au pas les aristocrates, les accapareurs et les modérés. J'amène avec moi le barbier de la République, et j'espère qu'il aura le plaisir de faire jouer un peu ici le rasoir national. » Alors il a présenté au club le vengeur public. Le bourreau. Quoi donc ? Tout le monde a donné l'accolade fraternelle aux citoyens. Et pour prouver qu'on avait des principes solides, on l'a nommé tout de suite président du club, comme pour dire aux aristocrates qu'il était temps de tirer leur cravate. Et les exécutions ont commencé alors ? Un peu, mais ça n'a pas duré, parce que Lainlo est parti, et que Jambon Saint-André s'en est allé avec l'escadre. Il faut espérer qu'ils recommenceront à leur retour. Nous avons bien besoin de ça, ma foi, car les affaires ne vont guère. Il n'y a plus de voyageurs, et il ne faut pas moins que les chevaux et les enfants et leur avoine. « Vous avez des enfants ?» demandai-je au voiturier, désirant détourner la conversation. « Parbleu, il n'y a que les aristocrates qui n'ont pas d'enfants. J'en ai 6, moi. L'aîné n'a que 12 ans, mais c'est déjà un patriote fini. Il a été reçu membre de la société régénérée. « Est-ce que les enfants font partie de votre club ?» dis-je avec étonnement. Le voiturier cligna des yeux et se mit à sourire d'un air de mystérieux orgueil. « Pas ordinairement, mais voyez-vous, voilà la chose. Le garçon est fort sur l'écriture. Son maître lui a fait faire un exemple où ce qu'il y avait, le monde ne sera heureux que lorsqu'on aura étranglé le dernier des rois avec les boyaux du dernier des prêtres. Et puis il l'a envoyé, avec les 10 premiers de sa classe, porter son cahier à l'agnelot, qui a été si content de la bonne éducation qu'on donnait à ses garçons, qu'il les a fait recevoir membres du club. Si bien que ces 12 mousses-là ont un banc à part, où ce qu'ils viennent chanter la Marseillaise et arranger le gouvernement avec leurs anciens. En ce moment, nous passions devant l'auberge d'un village. Le postillon s'interrompit tout à coup et arrêta ses chevaux. « Attention, dit-il, j'ai un voyageur à prendre ici. » Il descendit et entra dans l'auberge. J'éprouvais une véritable contrariété en apprenant que j'allais avoir un compagnon de route. J'ai toujours eu un éloignement décidé pour ces espèces de cohabitations improvisées des voitures publiques qui vous forcent à faire ménage pendant tout un jour avec un inconnu. Mais les circonstances augmentaient singulièrement cet éloignement naturel. L'aspect seul d'un étranger devenait un motif d'inquiétude à cette époque où la dénonciation arrivait de toutes parts, où un mot vous tuait, où le silence même pouvait devenir une cause de soupçon. Il fallait surveiller ses gestes, ses regards, ses impressions, mettre sa peur en faction devant sa pensée. Parler non pour être compris, mais pour ne pas l'être. Prévoyant l'ennui et la fatigue de cette laborieuse dissimulation, je m'en effrayais d'avance. Par bonheur, je n'en eus pas besoin. L'étranger que le voiturier était allé chercher se présenta sur le marchepied, et je me reculai pour lui faire place. « Pardon de vous déranger, monsieur, » me dit-il en saluant. Je me sentis soulagé. La politesse de cet homme venait de me dire son opinion. En ne me tutoyant pas, il avait fait une profession de foi et un acte de courage. Je me tins moins sur mes gardes, et l'entretien s'engagea. Nous nous apprîmes bientôt réciproquement que nous avions des amis communs. C'était déjà se connaître. La conversation devint alors facile et familière. Mon compagnon de route connaissait Brest, qu'il avait visité peu auparavant, et il m'en parla longuement. Cependant, nous avancions toujours, et le pays que nous traversions offrait un aspect de plus en plus désolé. Ces campagnes que j'avais vues autrefois si mouvantes de moissons et de feuillets, si parfumées de sarrasins fleuris, si résonnantes de mugissements de troupeaux et de chants de pâtres, je les trouvais arides, mornes, dévastées. Les manoirs qui élevaient naguère au milieu des arbres leurs tourelles à toit pointu et leurs girouettes armoriées, dépouillés maintenant de leurs ombrages et noirs des traces de l'incendie, dressaient leurs squelettes décharnés des deux côtés du chemin. Les Christs de carrefour gisaient abattus au fond des douves marécageuses, et les fontaines, souillées par les ronces et les feuilles mortes, avaient perdu leur vierge protectrice. Parfois, quand nous traversions un hameau, une église se montrait à nous avec ses frêles sculptures, ses dentelles de granit et sa flèche aérienne. Mais à peine si quelques restes de verrières pendaient encore à ses fenêtres demi-murées. Ses élégantes balustrades, ses cariatides bizarres, ses arabesques moulées dans le kersauton avaient été martelées. Elles parsemaient le sol de leurs débris, et à la porte entr'ouverte, au lieu de la figure sereine d'un paysan sortant la tête nue et les mains jointes sous son large chapeau, nous voyions apparaître le bonnet de police d'un gendarme qui fumait sur le seuil du lieu sacré, transformé en écurie. En approchant de Brest, les champs devenaient encore plus incultes. On n'y apercevait ni laboureurs, ni troupeaux. Ça et là seulement quelques maigres chevaux, échappés à la réquisition, broutaient les ajoncs épineux, dressaient la tête au moindre bruit, et fuyaient effarés à l'approche de notre voiture. Le long de la route, nous remarquâmes quelques chaumières ouvertes et abandonnées, comme si l'ennemi eût traversé depuis peu ce pays. Les fermes plus éloignées, et dont on apercevait la fumée s'élever à l'horizon, n'envoyaient elles-mêmes aucune rumeur de travail. Aucun chant de laveuse ne venait des douées parsemés le long des vallées. Tout était silencieux et comme terrifié. Ne croirait-on pas, dis-je à mon compagnon, qui, comme moi, regardait depuis longtemps, d'un air attristé, le tableau désolé que nous avions sous les yeux, ne croirait-on pas que la guerre, la peste ou la famine ont passé sur ce pays ? C'est bien pis, me répondit-il. C'est une idée et un mot. Ce sont eux qui ont brûlé ces manoirs, ruiné ces campagnes, fermé les églises, chassé les habitants de leurs demeures. Et pourtant, quelle idée plus belle et plus sainte ! Quel mot plus séduisant et plus sonore ! Souveraineté du peuple, république. Comme il achevait de parler, nous aperçûmes des charrettes chargées de marins blessés qui venaient de Brest. Les malades étaient étendus sur un peu de paille sanglante, brûlés par la fièvre, par un soleil dévorant, et manquaient de tout. Quelques-uns, qui avaient déjà succombé, étaient couchés en travers dans les charrettes, la tête et les pieds pendants, et servaient d'oreillers à leurs camarades. D'autres, étendus sans mouvement, faisaient entendre les sifflements horribles de ce râle qui accompagne toujours les agonies difficiles et combattues. Quant à ceux qui avaient conservé quelque force, aucune plainte ne trahissait leur souffrance. Leur front pâle gardait encore un air d'audace indifférente, et ils murmuraient à demi-voix ces chants magiques avec lesquels on mourait alors. En passant près d'eux, nous nous découvrîmes et leur souhaitâmes un voyage heureux. Pour toute réponse, ils lancèrent au ciel un cri de « Vive la République !» Ce cri sembla faire sur les mourants l'effet d'une commotion galvanique. Ils s'agitèrent dans leur fumier sanglant et levèrent encore leurs mains glacées comme pour s'associer à l'élan de leurs compagnons. Nous nous arrêtâmes, saisis de respect, muets, et le front découvert devant cet admirable spectacle. Quand la dernière charrette eut passé, l'étranger qui se trouvait près de moi me dit « Ces malheureux ont encore plusieurs lieues à faire avant d'atteindre les hôpitaux de Lesnevin ou de Paul Léon. Et peut-être n'y trouveront-ils rien de ce qui leur est nécessaire. Brest ne peut plus contenir les blessés que lui envoient ses escadres. Les hôpitaux, les églises, les tentes qu'on a dressées dans l'ancien enclos des Jésuites sont remplies. Les chirurgiens de la marine ne suffisent pas au service et manquent de médicaments. Les plaies se pansent, faute de linge, avec l'étoupe et le chanvre du porc. Les ambulances ont manqué de pain, de viande et de bois pendant 3 jours. Des blessés sont morts de faim. J'ai vu des convalescents mendier dans la ville et disputer aux chiens les ossements du ruisseau. À l'hôpital, la plupart des malades manquent de vêtements et se promènent en chemise dans les cours, enveloppés de leur couverture de laine. Mais toutes ces souffrances ne peuvent diminuer l'ardeur de nos matelots. Le dévouement de ces hommes est comme tous les dévouements qui ont leurs racines dans le cœur. Le frottement de la misère l'aiguise au lieu de l'émousser. Non que ce soit des républicains fort convaincus, mais c'est une race fidèle et forte qui, une fois le pavillon national à son mât, meurt sous ce pavillon, quelle que soit sa couleur. Puis, ces marins bretons sont infatigables. Rien ne les abat, rien ne les tue. Il n'y a que le cœur qui soit de chair dans ces hommes. Le reste est de fer. Si nous avions des officiers pour conduire de pareils matelots, la Convention pourrait décréter que l'océan fait partie des possessions de la République. Mais les officiers manquent. Tous étaient nobles, et tous ont abandonné nos ports pour passer à l'étranger. Il y a 1 an qu'un tiers de la ville de Brest était à vendre, par suite de l'émigration du grand corps. L'ambition a bien retenu à leur poste quelques chefs dont la République pourrait tirer parti, mais on suspecte leur patriotisme, et leur nombre est d'ailleurs fort restreint. Quant aux officiers bleus, malgré leur habileté et leur courage, il y a peu de choses à en attendre. Rapetissés trop longtemps dans les rôles secondaires, ils sont demeurés étrangers aux allures du commandement. Ce sont tout au plus de vaillants corsaires, bons pour ces duels maritimes qui se vident entre 2 navires au milieu de l'océan. Mais ils n'entendent rien à la tactique navale, ni aux grandes évolutions d'une escadre. Puis tous ces matelots d'hier, qui ont trouvé en s'éveillant un habit de capitaine sur leur hamac, sont mal à l'aise sous leur broderie. Ils ont honte d'eux-mêmes, ils se sentent gauches. Ils n'osent faire un pas de peur d'être ridicules, et leur ignorance paralyse leur audace. Les équipages comprennent cette inaptitude des chefs, aussi leur refusent-ils leur confiance. Ils les raillent, les bravent, et la discipline se relâche. Plusieurs révoltes ont eu lieu dans l'escadre de Villaret avant son départ, et spécialement à bord du Neptune. Le discours prononcé à cette occasion par le capitaine à ses matelots mutinés vous donnera la mesure de l'ignorance de nos nouveaux officiers. Je l'ai copié sur mon agenda. Le voici, c'est une pièce historique qui peint l'époque. Il fut prononcé en rade de Brest devant le représentant du peuple Jean-Bon Saint-André. Citoyens, il est un préalable sans lequel les choses resteraient dans la plus grande morosité. Depuis fort longtemps, vous agissez difformément à ma volonté. Je sais que vous avez des droits térogatifs, mais je sais aussi qu'on ne peut subjuguer un autre à ma place, sans en prodiguer les raisons australes. C'est pourquoi j'évacue le Tillac, à cette fin de lasser la parole à Jean-Bon Saint-André, qui vient exprès pour vous dire le reste. Vive la République, une, indivisible et impérissable. Et cette copie est authentique ? Demandai-je en prenant l'agenda des mains de mon compagnon de route pour relire encore cet incroyable discours. Elle a été prise au pied du grand mât, me répondit-il, sur le discours même du capitaine qui y avait été cloué par son ordre. Vous comprenez ce qu'une pareille ignorance de la part des officiers doit exciter de dédain et de raillerie chez les inférieurs. Un chef ridicule est toujours un mauvais chef. Ajoutez à ces causes de désordre le manque de ressources, le défaut d'organisation, les incertitudes d'une administration nouvelle, reconstruite avec les ruines d'une autre. Enfin, les difficultés générales de notre situation actuelle. Au moment où je vous parle, Brest manque de tout. L'approvisionnement des flottes et le passage des troupes ont épuisé le pays. Le maximum a éloigné les paysans des marchés. Ils ont caché leurs grains, disséminé leurs bestiaux dans les campagnes, et l'on ne peut plus s'approvisionner que par voie de réquisition et le sabre à la main. Le blé est maintenant si rare que si l'on vous invite à dîner chez un ami, on vous priera d'apporter votre pain. Les boutiques de tout genre sont vides et fermées. On ne trouve plus à acheter ni drap ni soierie. Vous verrez les deux tiers de cette population qui vit au milieu des brumes et des tempêtes, en habits de nankin, en culottes de nankin, en casquettes et en gilets de nankin. C'est la seule étoffe que l'on puisse se procurer dans la ville. Encore la doit-on à deux prises anglaises faites il y a peu de temps. La République n'a point payé les équipages de son escadre depuis 5 mois, et vous rencontrerez des capitaines de vaisseaux en guenilles, lavant eux-mêmes leur linge sale à la pompe, avec de grosses épaulettes et l'épée au côté. Au milieu de cette disette de tous, quelques chefs qui disposent des ressources du port et qui sont chargés des approvisionnements nagent dans l'abondance et emploient 3 cuisiniers. Quant aux représentants du peuple, ils ne font aucun effort pour changer l'état des choses. Ils se contentent de prêcher contre le fanatisme dans les clubs. Ils célèbrent de temps en temps une fête en l'honneur de l'être suprême, font déporter des prêtres, guillotinent des femmes, des vieillards. Et quand on se plaint trop haut, ils vous envoient comme fédéraliste dans les prisons du château, d'où l'on ne sort plus que pour monter sur la charrette du bourreau. À quoi nous aura donc servi la Révolution, si nous lui devons l'appauvrissement de nos forces, le gaspillage de nos ressources, la destruction de notre liberté et de notre repos? N'accusez pas la Révolution, répliqua vivement mon compagnon. Elle n'a fait que recueillir ce qu'on avait semé. Tous les malheurs qui nous frappent sont la suite nécessaire du régime qui vient de finir. C'est l'arrière-goût de la monarchie qui a disparu. Notre pauvreté est la conséquence des prodigalités précédentes. L'ignorance de nos officiers de marine est le résultat de l'organisation aristocratique si longtemps maintenue, qui ne permettait l'avancement qu'aux nobles et qui ôtait aux autres tout moyen d'instruction, tout espoir de commandement. Il n'y a pas jusqu'au gaspillage actuellement existant dans notre grand port qui ne soit un reste des traditions de l'Ancien Régime. Les hommes de maintenant ne sont pas les fils de la République. Ce sont des élèves de la monarchie. Leur immoralité est née de ces leçons et de ces exemples. Vous allez voir Brest. Brest vous fera horreur et dégoût, car il est affreux à voir dans ce moment. Mais ne vous en tenez pas à la première impression. Le Brest d'autrefois était bien réglé. Le privilège, l'injustice, l'insolence s'y trouvaient à l'état de bourgeoisie, et la tyrannie du grand corps avait quelque chose de convenu et de régulier qui la rendait en quelque sorte moins saillante. Dans le Brest d'aujourd'hui, au contraire, la réaction populaire se fait sentir avec toute sa nouveauté capricieuse. Elle est sans règles, sans suite, brute, ignorante, et elle se dépêche parce qu'elle a à prendre sa revanche de plusieurs siècles. Ce n'est plus le mal organisé comme autrefois, c'est le mal en désordre. Ce n'est plus un système inique, c'est une émeute féroce. Cependant, à tout prendre, l'état actuel est moins dangereux que celui qui l'a remplacé, parce qu'il est transitoire. Nous faisons une maladie aiguë dont nous pourrons guérir, tandis qu'autrefois le mal était dans notre constitution même. Songez à cela quand vous allez entrer dans la ville, et tenez-vous un peu sur la pointe du pied pour voir l'avenir par-dessus la tête du présent. Au surplus, ajouta-t-il, vous allez bientôt juger par vous-même de ce que je vous dis, car nous voilà arrivés. Brest en 94. Une exécution. Brest était en effet devant nous. Le léger dôme de vapeur qui couvre toujours les villes paraissait l'envelopper jusqu'à sa base. De loin en loin pourtant, quelques pâles traînées de soleil, perçant au travers du brouillard, glissaient sur les édifices les plus élevés et jetaient sur Brest tout entier une lumière incertaine. Grâce à cette vague lueur, on apercevait derrière les arbres de ses remparts, qui l'entourait comme une ceinture de feuillage, les longues lignes du quartier de la Marine que dominait la tour massive de Saint-Louis. Au-delà s'étendait la rade avec ses vaisseaux à l'ancre, et plus loin encore, tout à fait à l'horizon, le Ménéum qui semblait pendre du ciel comme une noire nuée. Cet ensemble avait quelque chose d'étrange et de triste. On eût cru voir une de ces cités de nuages qui se forment le soir à l'horizon et dont un soleil couchant dessine les fantastiques contours. Une pluie froide et fine commençait à tomber. Un coup de canon fut tiré et son retentissement courut pendant plusieurs minutes le long des dunes rocheuses qui formaient la baie. Je fus saisi de je ne sais quel pressentiment poignant. J'aurais voulu retourner sur mes pas et ne pas entrer à Brest. Je fis part à mon compagnon de cette espèce de répulsion que j'éprouvais. Il sourit tristement. « Qui sait, me dit-il, peut-être est-ce l'instinct de conservation donné par la nature à tous les êtres qui vient de s'éveiller en vous. Vous avez senti l'odeur de la guillotine. » Comme il achevait de parler, nous passâmes les portes. Je fus frappé tout d'abord de la solitude des rues. On n'apercevait personne sur le seuil ni aux fenêtres des maisons. On eût dit une ville abandonnée. Cependant, en avançant davantage, nous crûmes entendre comme une lointaine et sourde rumeur. Ce bruit grossit bientôt, et ce fut un murmure lugubre, puis un mugissement entrecoupé, immense, puis enfin une clameur sauvage qui éclata tout à coup. Nous tournions alors une rue, le charaban s'arrêta. Nous nous trouvions en face d'une foule pressée qui couvrait la place. Au milieu, la guillotine était debout et attendait. Je me rejetai au fond de la voiture en poussant un cri. « Mon Dieu, qui va-t-on tuer ? » demandai-je, pâle d'horreur. Mon compagnon de route avait aussi tout vu. Il haussa les épaules en soupirant. « Je ne sais qui ce peut être, » me répondit-il. « Avez-vous des parents ou des amis à Brest, monsieur ?»« Plusieurs. » « Alors ne regardez pas, » me dit-il en fermant lui-même les yeux, comme s'il eût voulu échapper à quelque image affreuse. Il y a un mois, je suis arrivé ainsi au moment où le bourreau montrait une tête au peuple, et c'était celle de mon meilleur ami. « Regardez pas, monsieur, je vous en prie, ne regardez pas. » Mais je n'entendais plus rien. J'étais saisi de cette espèce de fièvre folle que donne l'épouvante ou la douleur. Je m'étais levé, et debout sur le brancard du charaban, je plongeais avidement mes regards dans la foule. Bientôt j'aperçus une ondulation précipitée. Les rangs s'écartèrent, et la charrette funèbre parut. Je ne pouvais encore distinguer les traits des condamnés. Je voyais seulement qu'il y en avait trois, deux hommes et une femme. Ils approchaient. Je me penchai vers eux, éperdu. Ils se tournèrent de mon côté. Je fus prêt de jeter un cri de joie, je n'en connaissais aucun. Cependant, le tombereau était arrivé presque vis-à-vis de nous. Un embarras suspendit sa marche, il s'arrêta. Je pus alors examiner en détail les condamnés. Le premier était un vieillard dont les cheveux blancs étaient séparés avec soin sur le front, et dont la toilette annonçait une élégance presque coquette. Ses traits n'avaient rien que de vulgaire. Mais, en ce moment, cette vulgarité morne leur donnait quelque chose de sublime. Rien n'était changé dans la figure de cet homme. C'était la même expression de bienveillance et de tranquillité bourgeoise. On n'y trouvait pas même la gravité paisible que l'approche de l'heure suprême imprime sur le front des forts. Il allait à la mort sans l'appareil du courage et sans la beauté de la résignation, comme il serait allé à une occupation habituelle et indifférente. Au moment où la charrette s'arrêta, un enfant de 5 ou 6 ans, qu'une femme portait dans ses bras, approcha sa figure naïve des bords du tombereau, toucha avec sa petite main la tête du vieillard et lui demanda d'une voix curieuse et douce « Est-ce que c'est vous qu'on va guillotiner, citoyen ?» Le vieillard se retourna en souriant. « Oui, mon fils, » dit-il en passant une main caressante sur les cheveux lisses et noirs du petit garçon. Puis, se penchant vers la femme qui le portait, « À qui est cet enfant ? » demanda-t-il. La femme répondit un nom que je n'entendis pas. « Ah ah ! Ce sont des compatriotes et d'anciennes connaissances, » répliqua le vieillard. Puis, embrassant l'enfant, « Eh bien, petit, quand tu retourneras chez toi, Tu diras à ta mère que tu as vu guillotiner le père d'un de ses danseurs d'autrefois, le père du général Moreau. » Pendant cette scène impossible à rendre, j'étais resté sans mouvement et sans pensée. Cependant, des cris et un tumulte dans la foule me forcèrent à détourner les yeux. C'était le second condamné qui avait passé les pieds hors de la charrette et voulait s'échapper. Il était à genoux, les mains jointes, les yeux égarés, criant grâce au peuple d'une voix suppliante. Fou de peur, il baisait les bords du tombereau, il se frappait la poitrine, il criait « Vive la République ! Vive Robespierre ! Vive la guillotine !» Parfois, il se levait, tendait les bras vers la multitude, appelait ses amis par leur nom, répétait qu'il ne voulait pas mourir. Puis, retombant à genoux, murmurait des prières latines qu'interrompaient ses sanglots et ses convulsions. Le manque de cœur de cet homme causait à la fois de l'épouvante et du dégoût. À cette époque où les scélérats eux-mêmes savaient si bien mourir, la lâcheté d'un innocent faisait rougir les gens honnêtes. C'était faire honte à la vertu et perdre le seul privilège qui fût resté à ceux de son parti, le privilège de tomber sans faste et sans peur. Aussi une longue huée s'éleva de la foule et interrompit les supplications du condamné. Un gendarme s'approcha alors et le repoussa rudement dans la charrette où il tomba presque évanoui. La voiture fatale, débarrassée des obstacles qui l'avaient arrêté, avança lentement de quelques pas, et je pus voir la troisième victime qui, jusqu'alors, avait été cachée. C'était une religieuse encore jeune et d'une rare beauté. Elle était accroupie au fond de la charrette, gracieusement repliée sur elle-même, comme une enfant, dans une position plutôt nonchalante qu'affaissée. Ses yeux limpides se promenaient sur le peuple avec une placidité mélancolique. On y remarquait seulement une légère fixité, qui, jointe au mouvement convulsif de ses lèvres, donnait à ses traits une expression doucement égarée. Le bruit de la foule ne paraissait point parvenir jusqu'à son âme. Elle semblait suivre quelques pensées lointaines et converser toute seule avec un rêve. Déjà, elle avait ôté sa coiffe de nonne, et ses beaux cheveux blonds ruisselaient à flots sur ses épaules. Bientôt, elle défit sa guimpe, s'en dépouilla, et l'on aperçut son cou d'une blancheur éblouissante. Puis elle dégrafa son corsage, sa robe s'entr'ouvrit, et des épaules veloutées, un sein virginal s'échappèrent du vêtement de bure de la jeune fille. Une rumeur de surprise, un long frémissement, intraduisible mélange de pitié, d'admiration et de cynique désir, s'élevèrent dans la foule. « Regardez la nonne » criait-on de toutes parts. « La nonne se déshabille, la nonne est toute nue !» Mais l'enfant n'entendait rien. Elle venait de se déchausser, et elle tenait dans ses deux mains ses deux petits pieds nus et gracieux, qu'elle semblait admirer avec une joie enfantine. Puis, tout à coup, comme si elle se fût rappelée que l'heure du sommeil était venue, elle s'agenouilla, croisa ses mains sur sa poitrine, appuya son front sur les bords du tombereau, comme sur les bords de sa couche, et se mit à prier. Je me sentis pris d'une si profonde douleur devant cette pauvre insensée que les larmes me gagnèrent. « Mais elle est folle ! M'écriai-je. On ne peut pas guillotiner une folle. Il ne faut pas le souffrir. » Mon compagnon me saisit vivement la main. « Taisez-vous, me dit-il. Vos cris n'empêcheraient rien, et ils vous perdraient. » « Mais qu'a-t-elle fait? Qu'a pu faire cet enfant qui a mérité la mort ?»« Quelque bonne action, peut-être. » »« Mon Dieu, regardez comme elle est belle. » « Oui, je voudrais savoir lequel de nos juges aura ce soir pour maîtresse ce corps sans tête. »« Que dites-vous ? » m'écriai-je avec horreur. « Rien que de probable. » « Demandez à Lebars comment on viole un cadavre. » Je me rejetai dans le fond de la voiture, épouvanté. Quelques minutes plus tard, nous nous arrêtâmes dans la maison où l'on m'attendait. Je descendis et demandai ma valise. Pendant que le conducteur me la cherchait, mon compagnon de route se pencha vers moi. « J'ai été heureux de vous rencontrer, me dit-il. » Au temps où nous vivons, c'est beaucoup de pouvoir passer la moitié d'un jour avec un homme qui ne fait ni peur ni dégoût. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît ? Je le lui dis. Il me tendit la main. Nous ne nous reverrons peut-être jamais, ajouta-t-il. Bonheur et santé. Si vous visitez les montagnes et que vous passiez par la vieille ville d'Aécius, demandez le citoyen correct de la tour d'Auvergne, ancien grenadier. C'est moi. » Il me fit encore un signe de la main, et la voiture partit. Émile Souvestre.